Voici votre émission Antiquissimo.
Dédiée, comme son nom l'indique,
à l'Antiquité.
Archéologie.
Reconstitution.
Histoire.
Fiction.
Livre. Et film.
L'Antiquité avec un grand A.
L'Antiquité vivante.
L'Antiquité polymorphe qui nous unit tous.
Et bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est votre émission Antiquissimo avec aujourd'hui un livre programme et son auteur, un de ses auteurs, car ils sont deux à avoir co-écrit ce livre qui s'appelle, je le dis déjà, Gradatim, on va y revenir dans un instant. Les deux en question, je parle d'abord de Luca Ego qui ne sera pas présent sur nos ondes, il n'était pas disponible, mais nous parlerons avec son co-auteur, Michael Samoy. Donc, je salue tout d'abord Michael Samoy. Bonjour.
Bonjour, merci beaucoup de l'invitation.
Alors,
je suis ravie de parler de notre manuel.
Alors, donc, Lucas, je précise quand même que Lucas est un agrégé d'histoire normalien et qu'il est doctorant en histoire ancienne à l'Université d'Aix-Marseille. Tandis que vous, Michael, vous êtes agrégé de lettres classiques, vous enseignez, et vous enseignez les langues anciennes aussi, au sein de l'association Guillaume Budet, je crois, et vous animiez, parce que je pense que c'est peut-être quelque chose qui disparaît, vous allez nous le dire tout de suite, un cercle de latinistes à Avignon.
Oui, tout à fait. Alors, j'ai enseigné au sein de l'association Guillaume Budet de Lyon, lorsque je faisais mes études. C'est d'ailleurs là que nous nous sommes rencontrés et que nous avons formé avec Lucas, qui enseignait aussi dans cette association, le projet d'écrire un manuel de latin. Et ensuite, comme il se doit pour tous les jeunes professeurs, j'ai un petit peu vadrouillé. J'ai été muté d'abord dans l'Académie de Créteil, à Torcy, et je suis maintenant à Avignon. Donc j'ai, en effet, pendant 2 ans, tenu un cercle qui était plutôt d'ailleurs un cours de latin à l'Université d'Avignon, mais de manière informelle, en accord avec une association étudiante. Et c'est un petit peu en train de s'essouffler parce que les étudiants que j'avais il y a 2 ans commencent à partir. Et je suis aussi en train de passer à autre chose. Mais ceci dit, je profite de cette radio pour faire une annonce. Si certains Avignonnais seraient intéressés pour faire du latin et du latin vivant, je serais ravi de converser avec eux et de former un petit cercle. Voilà.
Eh bien, nous serions
ravis. Et j'enseigne ce qui est sans doute le plus important. Je suis désolé si je suis un peu long.
Pas du tout.
Surtout dans un collège, le collège Anselme Mathieu, je pense qu'il m'est permis de le dire, d'Avignon.
Bien entendu.
Et j'ai toujours enseigné au collège, j'ai enseigné aussi au collège de Torcy, voilà, donc à des élèves du secondaire.
Et ça s'entend dans votre voix, vous êtes un professeur heureux.
Oui, je crois que c'est le plus important, évidemment.
Bien sûr.
En tout cas, pour le moment, je n'éprouve pas forcément le rejet qu'on peut nous décrire parfois. Je suis très heureux d'être devant les enfants. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est très gratifiant. Et si je peux par là même convaincre des étudiants de faire ce beau métier, j'espère que
oui,
je le ferai. Voilà.
Voilà. Alors oui, cet appel, il faut bien sûr être insistant là-dessus parce que, en effet, il y a de très belles choses à faire dans ce domaine. Il ne faut surtout jamais baisser les bras et penser que le latin est vivant, comme vous l'avez indiqué tout à l'heure. Donc, avant de devenir professeur de lettres classiques, métier que je ne peux que encourager puisque je l'ai moi-même été pendant longtemps, avant d'être professeur de lettres classiques, est-ce que vous aviez toujours eu ce goût pour l'histoire et pour le latin, le grec ?
Ça, en fait, il se trouve que dans mon parcours, dans le secondaire, j'ai fait du latin. Il y a un professeur de latin qui est d'ailleurs maintenant un ami, qui m'a conseillé la classe préparatoire. Et évidemment, j'ai fait du latin, mais je n'avais pas forcément pour projet d'être professeur de lettres classiques. Et c'est surtout en classe préparatoire à Sainte-Marie, la prépa Sainte-Marie de Lyon, que j'ai formé ce projet, donc quand même assez tôt finalement dans mes études de devenir professeur. J'ai fait du grec un peu par hasard, parce que dans cette prépa, on devait choisir des langues vivantes. Moi, j'avais fait de l'italien à Briançon, à la frontière, et elle ne proposait pas cette prépa de l'italien, donc j'ai été obligé de choisir grec ancien, et finalement, c'était une obligation, comme souvent, très heureuse, puisque j'ai adoré le grec, et je continuais le latin et je suis ensuite devenu professeur de lettres classiques. Mais j'ai très tôt voulu être professeur, pas forcément de lettres classiques, mais c'est un métier qui m'a rapidement attiré.
Oui, le
Voilà.
partage et la transmission d'une passion. Alors, je vais
Oui.
vous poser deux questions qui ont quand même un point commun, les deux. Pourquoi aviez-vous fait du latin vous-même? Et aujourd'hui, pourquoi diriez-vous qu'il faut faire du latin? C'est des questions
Alors,
difficiles.
oui, c'est des questions difficiles, donc je préfère répondre d'ailleurs sincèrement parce que je pense que comme c'est des sujets quand même aujourd'hui qui travaillent un petit peu le milieu, il faut mieux être, comment dirait-on, transparent là-dessus. Moi, je viens d'une famille qui faisait grand cas de l'école et qui nous a conseillé vivement à ma sœur et à moi, je parle de ma sœur, c'est une sœur jumelle, on était dans la même classe, on a fait tous les deux du latin, donc de faire du latin, alors même que dans ma famille, il n'y avait pas du tout cette tradition de littéraire. Et encore moins de ce goût pour l'Antiquité. Donc finalement, c'est par hasard, petit à petit, que j'ai commencé à avoir ce goût pour l'Antiquité. Ça ne m'est pas venu tout de suite, ça ne m'est pas venu dans l'enfance, et je trouve ça même tout à fait logique que l'école, par elle-même, puisse emmener les élèves à devenir être professeurs de lettres classiques.
Mais
Voilà.
oui, bien
Et
sûr.
voilà, donc voilà mon parcours. Je parle aussi, enfin je vais dire le contraire pour Lucas, comme ça on aura mon co-auteur, donc on aura eu les deux parcours. J'espère, je ne connais pas la vie de mon co-auteur par cœur, mais je sais qu'à l'inverse, Lucas a été depuis très longtemps, je ne saurais dire exactement, mais depuis son enfance, passionné par l'Antiquité. Donc, il a eu un parcours qui n'est pas tout à fait le mien, même si ils ont mené à un horizon à peu près similaire. Voilà.
Alors, justement, puisque vous parlez de votre co-auteur, est-il facile de... Pour ma part, ce serait un peu difficile. Est-il facile de travailler à deux?
Je pense que c'est toujours difficile de travailler à deux ou à plusieurs. Nous nous sommes trouvés l'un l'autre, je dois dire. J'en suis moi-même parfois étonné. Je le dis presque avec de l'émotion parce que c'est aussi une grande amitié, je crois, qui s'est créée avec ce manuel. Parce que d'ailleurs, pour être tout à fait sincère, nous n'étions pas particulièrement proches avant d'avoir entrepris ce manuel ensemble. Nous étions amis, mais pas de très proches amis. Et il faut dire qu'on a commencé ce projet en 2019, donc il y a 5 ans. On a fait un petit peu le calcul tous les deux. On se voit en moyenne 5 heures par semaine pour faire ce manuel en visio, hein, parce que nous n'habitons pas dans la même ville. Et donc, ça demande beaucoup de passion, beaucoup d'envie aussi, parce qu'évidemment, nous le faisons peut-être pas gratuitement, mais il y a beaucoup de gratuité quand même dans l'écriture de tels ouvrages. Et ça demande de tenir sur la longueur. Il n'y a pas beaucoup de mes amis, même très proches, avec qui j'aurais pu faire ce manuel aussi longtemps. Et d'ailleurs, je dois dire que en plus de Lucas, qui évidemment est le co-auteur,
Bien
nous avons
sûr.
aussi un groupe d'amis latiniste, qui nous a toujours soutenus, aidés, relus, et c'est beaucoup de travail qui soutient tout ça. Et j'en profite pour les remercier. C'est toujours difficile de les remercier. Je trouve que c'est bien de le faire. Voilà.
Alors, il faudrait surtout pas oublier, quand je parlais de duo, qu'en réalité, il s'agit d'un trio, puisque n'oublions pas la facture, la pâte, le crayon de Jean-Claude Golvin, qui fait des merveilles dans ce Gradatim, tome 1 et tome 2, puisqu'il a la gentillesse d'illustrer votre propos à chaque fois d'une aquarelle dont il a le secret. Ici, on adore Jean-Claude Golvin et j'ai eu grand plaisir à le retrouver dans votre livre. Donc, il ne faut surtout pas l'oublier. Alors, on va parler bien sûr de ce livre plus précisément dans un instant et peut-être que vous nous expliquerez, si c'est possible, qui a fait quoi dans le manuel. Mais d'abord, je voudrais quand même dire un tout petit mot de la collection dans laquelle s'inscrit ce Gradatim manuel de latin. C'est la collection Les Petits Latins initiés aux belles lettres dans l'idée justement à la fois de mieux connaître le français en connaissant mieux le latin et la civilisation latine. Et cette collection, c'est Laure de Chantal aux Belles Lettres qui, en 2022, je crois, l'a créée. Il y a eu depuis beaucoup d'albums. Il y a 33 titres qui sont parus et deux qui vont pas tarder à sortir. Moi, je ne peux ici pas parler de tous, et il m'arrive de faire des émissions sur l'un ou sur l'autre comme aujourd'hui. Je signale simplement le cahier Sous le soleil de Pompéi, un cahier de jeu. Avec un parcours ludique qui nous entraîne dans les rues de Pompéi. On voit termes, graffitis, objets, et cela fait le pendant un autre cahier qui avait eu cours dans la même collection sur la Grèce. Mais je me focalise sous le soleil de Pompéi pour dire que lors du forum du livre Péplum du dimanche 22 juin à Nîmes au musée de la Romanité, eh bien, le thème étant Quid novi à Pompéi, il y aura beaucoup d'ouvrages sur le thème et notamment celui-ci. Donc, une belle collection que moi j'apprécie beaucoup et qui sert autant pour ceux qui sont dans le métier, les professeurs, que pour ceux qui ont envie soit d'approfondir ce qu'ils ont appris plus petit, soit de commencer, puisqu'il y a des tas de livres qui débutent avec justement la mention débutant ou bien latiniste ou les hellénistes confirmés. Donc ici, nous sommes là dans un échantillonnage de beaucoup de livres, et ça n'est pas fini, qui vont vous permettre d'accéder aux langues et aux textes de cette façon. Mais je reviens à Gradatim. Après quelques petites secondes de musique assez rigolote, je vous les laisse écouter.
Fais une musique en latin? Bon, ça tombe bien, je connais quelques mots en latin. Eh ouais.
Vous avez entendu ce petit clin d'œil musical qui nous permet de nous glisser pas à pas, puisque c'est la signification de gradatim, pas à pas dans une méthode de latin que je dirais originale. Est-ce que vous pensez aussi, je crois, autrement vous n'auriez pas tenté, qu'il s'agit d'une approche originale de la langue?
Oui, même si l'originalité se retrouve aussi parfois dans la tradition.
Oui.
Bien évidemment, si on a fait cette méthode avec Lucas depuis 5 ans, c'était pour faire quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on ne retrouvait pas ailleurs. Et donc oui, en cela, elle est originale. Voilà.
Alors donc, c'est une méthode, donc je dis bien que là, c'est le tome 2 qui vient de paraître. Le tome 1 était paru en 2023 et c'est la continuation et peut-être qu'on peut déjà le dire, peut-être y aura-t-il une suite parce que il paraît évident que même si c'est tout à fait dense, à la fois clair, dense et complet, il y a encore beaucoup à dire sur la langue latine et son approche par les textes. Donc il y aura peut-être un tome 3, mais pour l'instant, nous avons donc ces deux tomes. Et vous avez décidé, donc dans le premier tome, il y avait 5 chapitres, puis ensuite, nous avons à nouveau le pendant avec ce tome 2. Au départ, vous aviez décidé comme ça qu'il y aurait ce même nombre de chapitres. Vous aviez tout établi comme progression.
La progression se fait petit à petit. Alors, on a des idées, évidemment, de là où on veut aller. Souvent, on a de grandes idées, mais on ne s'en rend pas compte. D'ailleurs, au début, ce sont que des points de fuite et nous essayons de plus en plus de nous y rapprocher, mais finalement nous sommes obligés de faire des compromis et des concessions. Ça s'est fait petit à petit. Nous savions que nous voulions faire plusieurs tomes. Voilà. Maintenant que nous sommes au tome 2, nous avons vu quand même une bonne partie de la grammaire latine. Et je dirais que ce qui reste sont des points vraiment non pas de spécialistes, mais de latinistes déjà avancés. Le manuel tel qu'il est dans ces deux volumes permet déjà d'avoir de bonnes bases, que ce soit pour des élèves du secondaire ou alors pour des étudiants qui voudraient continuer, qui voudraient même, pardon, commencer le latin dans le supérieur, et aussi pour des autodidactes. C'est bien aussi que vous ayez parlé des chapitres, et ça me permet de faire le lien avec la collection, puisque notre manuel a cette originalité, même s'il y a d'autres manuels qui l'ont, d'être en partie de reposer sur un fil conducteur narratif. On a un magister Lucius et ses discipuli.
Oui.
Voilà. Et c'est pour ça aussi qu'il s'intègre parfaitement dans cette collection que vous avez très bien présentée, qui sont en fait des textes écrits en latin et en grec, ou en grec plutôt, mais écrits par des auteurs contemporains pour permettre d'avoir des lectures latines et grecques plus simples, plus simplifiées que les auteurs évidemment authentiques de l'Antiquité. Et c'est aussi ce choix-là que l'on a fait pour notre manuel. C'est-à-dire que le cœur, la colonne vertébrale de notre manuel, ce sont des textes qu'on a écrits à deux mains, ou à quatre mains, mais sont pas ambidextres, avec Lucas, pour aborder petit à petit la grammaire et le vocabulaire latin, et aussi pour présenter aux élèves et aux étudiants un petit panorama, je dis bien un petit panorama, de la culture latine ou antique au sens large, puisqu'on commence par Homère. Voilà. Et en plus de cela, ça fait quand même beaucoup de contraintes, mais nous y sommes parvenus, nous avons voulu ce fil narratif avec ce professeur, Lucius, qui présente petit à petit à ses élèves l'histoire romaine et la littérature romaine. Voilà. La collection.
Oui. Et de ce fait, chacun de ces chapitres dont nous allons un petit peu parler maintenant s'organise de la même façon, à la fois rapide, variée et dense, comme je l'ai dit. Ça commence par un dialogue, et là on est dans le latin vivant dont vous parliez. Il y a, dans un latin très correct, mais avec des formules de l'oral. Il y a ensuite un petit encart grammatical qui est fort clair. Parfois, il y en a plusieurs. Et des exercices. Alors, les exercices, on peut avoir, je parlerai des textes dans un petit instant à nouveau, les exercices ont leur corrigé, je crois, si on va les chercher sur Internet, c'est ça?
Oui, parfaitement. Sur le site de la Vie des Classiques, donc il faut créer son compte, hein, comme il se doit, mais c'est tout à fait gratuit. Et sur ce site, il y a actuellement les exercices du tome 1. Nous mettons petit à petit avec l'équipe, la fabuleuse équipe des belles lettres qui nous accompagne de la Vie des Classiques, nous mettons les exercices du tome 2. Et nous avons aussi un document, puisqu'on parlait de l'originalité du manuel, nous avons essayé de l'être avec ce document. Nous avons un lexique au format tableur, hein, Excel, qui permet d'avoir le vocabulaire de chaque leçon, de chaque chapitre, classé par nature grammaticale. qui devrait être très pratique pour les étudiants et les professeurs qui voudraient l'utiliser. Voilà. Alors, pour l'instant, nous sommes dans la rédaction et dans le peaufinement du manuel, mais après, nous espérons, avec l'équipe de la vie des classiques, mettre d'autres documents, des appendices, des compléments sur ce site. Voilà.
Donc, ça reste très interactif. Et alors, donc, quand je disais que régulièrement, il y a la même structure du chapitre, donc un dialogue, de la grammaire, des exercices dont on vient d'évoquer les corrigés, et puis ensuite, quelque chose qui relève de l'histoire de Rome. Alors, les rois de Rome, Lucrèce et la notion de politique. De Boudicitia, par exemple, la République, des étapes de la République, les vertus romaines, j'ai beaucoup aimé ça, virtus, pietas, fides, gravitas. Et puis, donc, de chapitre en chapitre, ça se passe toujours de la même façon, en progressant non seulement dans la grammaire, mais dans l'histoire de Rome.
Voilà, alors ça c'est un petit peu une spécificité du deuxième volume. Nous l'avions déjà fait dans le volume 1, mais plutôt à travers les textes. Donc nous avons des textes qui s'inspirent et qui résument, alors très brièvement évidemment, l'Iliade, puis ensuite l'Énéide, puis Tite-Live. On a mis quelques notes et une présentation très brève au début de chaque chapitre. Mais dans le volume 2, Lucain, évidemment, pas fait que ça, mais ça a été une partie de son travail. Il nous a fait des présentations historiques et culturelles beaucoup plus fournies, qui sont vraiment une richesse pour un manuel de latin. Je ne veux pas non plus présenter ce manuel comme un manuel d'histoire, parce que ce n'est pas le cas. Et il ne permet pas, comme un manuel vraiment d'histoire structuré, de comprendre de manière chronologique ou thématique la culture romaine, voilà. Mais il permet de découvrir des éléments, en effet, très variés, qu'on a choisis parmi beaucoup d'autres. Évidemment, il faut choisir. Donc, vous les avez parfaitement cités. On a fait, par exemple, une leçon sur les vertus, une leçon sur les fables, la fable des membres du corps et de
Oui.
l'estomac, lors de la sécession
Sur de la
de la
plèbe.
plèbe. Voilà, qui nous permet d'introduire le conflit patricien-plébéien. Voilà, donc on a essayé d'être un petit peu malin pour finalement, en peu de pages, présenter beaucoup de choses, mais ça, bien sûr, c'est un compromis qui, bien sûr, fait qu'on ne peut pas, quand on n'a pas du tout de connaissance de la romanité, prétendre étudier l'histoire de Rome seulement avec notre manuel.
Non, mais ça
Mais
donne quand
pour
même de
des...
bonnes bases sur la
Voilà.
progression de ce monde.
Voilà.
Alors, je note
L'idée,
simplement, c'est que dans le chapitre 10, en revanche, dans les dernières leçons, il n'y a plus de civilisation. Alors, c'était une question que je me posais. Voilà, le participe et l'infinitif futur, le supin, vous ont pris toute la place. Puis ensuite, le supin en U, on termine là-dessus. Eh bien, là, il n'y avait pas de civilisation. Donc, ce qui m'a laissé espérer qu'il y aurait un tome 3 qui prolongerait l'entrée dans l'histoire.
Alors, en fait, le dernier chapitre, donc c'est-à-dire le dernier chapitre du tome 2, est un chapitre un petit peu particulier, puisqu'il s'agit d'une pièce de théâtre,
Oui,
l'Olularia de
de
Plaute,
Plaute.
qu'on a réécrite, hein, complètement, vraiment simplifiée en quatre scènes, qui a pour vocation d'être jouée, hein, avec toutes les contraintes que j'ai décrites plus tôt, celle de respecter la progression grammaticale et lexicale. Et nous avons en fait un cours de civilisation dessus. Nous présentons Plaute et nous présentons la comédie latine et grecque, brièvement, mais nous la présentons. Mais il est vrai que comme nous avons fait un cours de civilisation, il y a quatre leçons, hein, par chapitre,
Oui,
nous avons fait
exactement.
un cours, enfin, Lucas a fait un cours sur la première, la deuxième leçon, où nous présentions déjà beaucoup de choses de la comédie latine.
Ah oui,
Nous
ça,
n'avons
j'ai
tout
trouvé ça
simplement.
remarquable aussi, hein. Les personnages
Voilà.
masculins, les personnages féminins,
Voilà.
c'était vraiment très bien. Alors, je vous
Voilà.
interromps car nous allons marquer une petite pause musicale, la dernière, et puis il nous restera très très peu de temps pour parler d'un chapitre qui m'a vraiment beaucoup plu à nouveau.
Rosa, rosa, rosa. Rosé, rosé, rosa, rosé, rosé, rosas, rosarum, rosis, rosis. C'est le plus vieux tango du monde, celui que les têtes blondes annonnent comme une ronde en apprenant leur latin. C'est le tango du collège qui prend les rêves au piège et dont il est sacrilège de ne pas sortir malin. C'est le tango des bons pères qui surveille l'œil sévère, les Jules et les prospères qui seront la France de demain. Rosa, 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 rosé, rosé, rosa, rosé, rosé, rosas, rosarum, rosis, rosis. C'est le tango des forts en thème, boutonneux jusqu'à l'extrême, et qui recouvre de laine leur cœur qui est déjà froid. C'est le tango des forts en rien, qui décline de chagrin, et qui seront pharmaciens parce que papa ne l'était pas. C'est le temps où j'étais dernier.
Alors, je disais pour terminer, il ne nous reste plus qu'une minute parce que le temps passe à toute allure. Moi, j'aimerais bien évoquer au chapitre 9 quelque chose d'assez étonnant. C'est tout un travail de réécriture sur le chou de Caton. Moi, j'aime bien l'appeler Caton le ronchon. Hein, Caton, et c'est son idée qu'il faut à Rome persuader tout le monde que le chou est bon. Et alors, vous êtes parti du texte de Caton pour en faire votre autre texte, mais vraiment très fidèle à ce qui est l'esprit de Caton. Et l'image qu'on voit, celle de Golvin, avec un pressoir qui nous met cette fois-ci dans le monde du vin, ben, nous indique que peut-être on n'est pas loin. Nous sommes ici tout près de Beaucaire et du Mas des Tourelles, du célèbre pressoir qui a été reconstruit au Mas des Tourelles. Donc là, vous êtes vraiment dans les réalia, avec une servante que vous avez introduite et un remarquable travail de réécriture, je trouve, du texte de Caton. Donc je vous félicite à la fois Lucas et Michael pour ce Gradatine tome 2 et je vous dis à très bientôt.
Merci, merci encore pour l'invitation et j'espère que j'ai donné envie d'étudier le latin à beaucoup d'étudiants et d'élèves.
Merci
voilà.
beaucoup, au revoir.